les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Impromptu de vacances. L'émission estivale que proposait Harold Portnoy en 1965 sur France Culture s'ouvrait chaque fois sur la question qu'évoque pour vous le mot « vacances ». Après Man Ray, Simone Signoret et Yves Montand, et encore Agnès Varda, Dominique Rollin, Pierre Segers et Max-Paul Fouché, c'était au tour de l'écrivain Marcel Brion de répondre à la question rituelle. Romancier, critique littéraire et historien de l'art, spécialiste de la Renaissance italienne et du romantisme allemand, Marcel Brion était aussi un grand voyageur. Il évoque ici la Provence de son enfance, l'Allemagne, l'Italie, la Norvège, la Hollande, l'Angleterre, l'Égypte et l'Irlande de ses ancêtres. Autant de pays où il séjourna souvent et dont, pour la plupart, il parlait la langue. Il décrit aussi les états quasi hypnotiques dans lesquels naissaient ses romans.
France Culture présente Impromptu de vacances, une émission de Harold Portnoy. Ce soir, entretien avec Marcel Brion de l'Académie française. Assistante Yvette Tujban.
Marcel Brion, qu'évoque pour vous le terme « vacances » ?
Le terme « vacances » évoque pour moi l'enfance d'abord, parce que je peux dire qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de vacances. Partir en vacances, c'est simplement changer d'endroit où je travaille, mais le travail ne change pas. Alors que cette merveilleuse disponibilité, cette liberté absolue, cette sorte d'ivresse, cette plénitude, en somme, de se sentir appartenir aux éléments et aux éléments seuls, avoir échappé au livre, tout cela, je peux dire que je ne l'ai plus connu depuis l'enfance. Les vacances de mon enfance, je les situe volontiers, j'en situe le souvenir, d'abord dans une vieille maison de famille que nous avions en Provence, qui était un vieux mas que j'aimais beaucoup, qui appartenait à mes parents, à mes ancêtres depuis très longtemps, et où j'avais la joie de retrouver chaque fois que j'y venais l'été mes livres d'enfants enfermés dans un placard, mes jouets. Et pour moi, je dois dire que cette propriété a été un lieu d'enchantement. Parce que j'étais fils unique, j'aimais bien avoir des camarades, naturellement, mais enfin, je n'avais pas besoin de camarades. Je supportais la solitude et je savais meubler ma solitude en y faisant intervenir toutes sortes de personnages imaginaires qui devenaient mes compagnons de jeu. Alors, ce grand parc, avec sa pinède, avec ses prairies, avec ses allées, avec ses terrasses de platanes, était évidemment pour moi un lieu enchanté que je pouvais métamorphoser et transfigurer selon l'humeur du moment. J'ai passé là d'admirables vacances, qui augmentent évidemment le regret que j'ai de ce que cette propriété s'est perdue, puisque ma mère l'avait vendue. Et pour moi, ça reste dans mes souvenirs une forme de paradis. Vraiment, j'ai vécu à cet endroit-là des années merveilleuses, des années enivrantes. Et chaque fois que j'y pense, je retrouve en moi exactement la même qualité de joie plénière, de joie surabondante que j'avais à ce moment-là. Mais il n'y avait pas seulement la campagne. Les vacances, c'était aussi les voyages, c'était les séjours à la montagne, c'était aussi les séjours dans les villes d'eau dans lesquelles j'accompagnais mes parents. La montagne a toujours joué un très grand rôle dans ma vie, parce que là, je sentais que j'avais un contact avec des éléments beaucoup plus graves, beaucoup plus puissants et beaucoup plus mystérieux que je ne l'éprouvais dans mon vieux parc provençal.
Pourquoi parlez-vous de gravité par rapport à la montagne ?
Parce que la montagne a toujours signifié pour moi un monde surnaturel. J'ai l'impression que la forêt et la montagne sont des êtres vivants, sont des êtres surnaturels, naturels et en même temps surnaturels. Si vous voulez, j'ai toujours éprouvé et j'éprouve encore dans la forêt, surtout dans la grande forêt de sapins et dans la montagne, quelle qu'elle soit, mais surtout dans la montagne à neige, dans la montagne à glacier, naturellement, le sentiment de présence grave, de présence surhumaine. J'ai gardé une sorte de respect sacré devant la montagne et devant la forêt qu'évidemment le paysage provençal ne m'inspirait pas.
Que pensez-vous de l'immobilité de la nature ?
L'immobilité de la nature est, je crois, pour elle, une façon de se déguiser à nous. Parce que la nature a peur de l'homme. La nature sait que très peu d'hommes sont capables de nourrir une véritable intimité confiante avec elle. Ou bien ils brutalisent la nature en l'utilisant, ou bien ils sont pétrifiés d'admiration et de stupeur devant la nature. Mais pour avoir une véritable communion avec la nature, je crois qu'il y a peu d'hommes qui le sentent, et c'est pour cela que la nature se donne d'une façon tellement magnifique à ceux qui savent communier avec les éléments, avec ses présences majestueuses, intimidantes, mais qui savent être amicales aussi quand on a trouvé le chemin de leur cœur, le chemin qui conduit de leur cœur à notre cœur.
Quel don faut-il pour trouver ce chemin ?
La disponibilité. Je crois que le seul moyen est de faire le vide en soi, de se débarrasser de soi-même, de se débarrasser de cette personnalité humaine que l'on a, qui est une personnalité fermée, limitée. À partir du moment où nous savons nous ouvrir, et je crois que dans la vie, dans tous les actes de la vie, que ce soit en présence de la nature comme en présence de l'œuvre d'art, je crois qu'il faut perpétuellement être ouvert. Et au moment où l'on est ouvert, au moment où l'on a su créer en soi ce vide de son propre moi, il y a quelque chose qui nous vient de la nature et qui à ce moment-là nous pénètre, nous envahit et nous remplit. Nous sommes des créatures que les éléments doivent traverser. Et c'est parce que nous sommes traversés par le soleil, par le vent, par l'air, par les images de la nature, parce que nous devenons la nature et que la nature devient nous, qu'à ce moment-là, nous sommes capables de communier avec elle.
Mais pensez-vous qu'il s'agisse d'un don ou bien d'un exercice spirituel ?
Je ne sais pas. Cela peut être un exercice spirituel. En ce qui me concerne, puisqu'on ne peut jamais parler que de soi et de ses expériences personnelles, chez moi, je crois plutôt que ce fut un don. Ce fut, si vous voulez, une sorte d'absence de personnalité. Je n'ai pas une personnalité très fermée. Je n'ai pas de contour. Je n'ai pas de profil. Je crois que je possède une certaine aptitude aux métamorphoses. Je suis capable de devenir l'autre. Je suis capable de me transformer. Et c'est peut-être à cause de cela, parce que je sais le moment voulu faire abandon de moi-même, que les choses et les êtres me donnent tellement parce qu'ils trouvent en moi un espace vide dans lequel ils peuvent venir s'insérer.
Est-ce que vous pourriez nous parler, par exemple, d'un arbre avec lequel vous avez communié ?
Un jour, j'étais enfant, j'étais au collège, je ne me rappelle plus ce qui était arrivé, quelqu'un de ses chagrins ou quelqu'une de ces humiliations que l'on a souvent pour des riens quand on est enfant. Et j'étais allé dans le parc avec ce chagrin que je promenais avec moi, et il me semblait que ce chagrin m'isolait du monde des arbres. Et à ce moment-là, il y a eu un sapin en face de moi. Je me suis trouvé en face d'un sapin, et tout d'un coup, j'ai senti de la part de ce sapin une sorte de réponse à l'état d'esprit dans lequel je me trouvais alors. Je le dis d'une façon qui peut paraître paradoxale et ridicule, je peux dire qu'à ce moment-là, l'arbre est venu au-devant de moi. Ça a l'air idiot, évidemment, parce qu'un arbre ne se détache pas, ne arrache pas ses racines du sol pour se mettre à marcher. Mais j'ai eu la sensation que l'arbre est venu au-devant de moi pour m'apporter la chose dont, justement, à ce moment-là, j'avais besoin. Et puis, il y avait aussi trois charmes qui ont joué un grand rôle dans ma vie, trois charmes avec de grandes branches retombantes. Ceux-là, je les appelais les trois princesses enchantées. Et quand j'étais petit, je croyais sincèrement qu'un beau jour, ces trois princesses qui avaient été enchantées et enfermées dans ces arbres retrouveraient leur forme de princesse. Et alors j'allais très souvent voir ces charmes en me disant « Qui sait, c'est peut-être à ce moment-là que va se produire la métamorphose qui rendra aux princesses leur forme originelle ».
C'est sur une table de cuisine que j'ai fait mes plus belles navigations. Je la traînais au milieu de la prairie et la renversais dans l'herbe. Aussitôt, comme si le seul fait de placer cet objet familier dans une position insolite avait déchaîné toutes les magies dont sont capables les choses dès que nous les affranchissons de leur trop rigoureuse fonctionnalité, le monde se transformait autour de moi. Des vagues vertes ondulaient, se bousculaient autour de mon navire. Je me sentais soulevé par d'immenses bras marins qui m'enlevaient à la terre pour m'offrir au ciel. J'éprouvais sous mes pieds le craquement de la coque, tandis que toutes les forces du vaisseau se rassemblaient pour résister à la tempête. Jamais, durant toute ma vie, je n'ai connu mers aussi déchaînées. Je me cramponnais à l'un des pieds de la table, tremblant qu'il ne fût arraché à son tour comme les autres mâts qui s'envolaient en rugissant dans le ciel ardent, traînant leurs voiles ainsi que des ailes déchiquetées. Je restais seul à bord. Tous les marins avaient péri dans la tempête. Le navire s'émiettait sous mes pieds. Chaque vague arrachait une planche. Les bancs, les tonneaux et les cages à poules s'en allaient à la dérive. Bientôt, il ne me resterait même plus ces accessoires nécessaires aux naufragés, la bouée, le barillet d'eau douce, la boîte de conserve et la boule de pain moisi. Je n'aurais qu'une vergue à laquelle je me cramponnerais dans un effort désespéré, mes mains glissant contre ce mât de cocagne déraciné avec lequel la mer jouait férocement, certaine de gagner à coup sûr au moment qu'elle choisirait. Car cette table de cuisine, qui m'aurait sauvé peut-être si je m'étais accroché à elle dans un vrai naufrage, ne pouvait me donner aucun recours maintenant, puisque je la sentais s'enfoncer sous moi parmi les remous de l'herbe, puisque j'avais renoncé à elle pour ne plus confier ma vie qu'à cette poutre vernie où ne se fixait aucune prise sûre. Et j'aurais crié, tant était grande mon angoisse, si je n'avais craint qu'on ne vînt à mon secours et qu'on ne me délivrât de cette exquise anxiété.
Je crois, Marcel Brillon, que le cirque vous a beaucoup attiré.
Ah, le cirque a toujours été une passion pour moi, depuis ma toute petite enfance, et il l'est resté. J'aime beaucoup le cirque, parce que j'admire les artistes de cirque. Pour moi, ce sont des êtres magnifiques, ce sont des êtres d'une pureté, d'une noblesse, d'une exigence dans leur art, d'un sens de la perfection, que l'on ne trouve pas toujours, je dirais, chez les écrivains. J'ai beaucoup fréquenté les gens de cirque pendant une certaine période de ma vie. J'ai connu des acrobates, des trapézistes, des dompteurs, des jongleurs. Et je dois dire que voir travailler ces gens-là est une merveilleuse leçon. La façon dont ils répètent leurs numéros, souvent pendant des années, pour arriver à un résultat qui est parfait, naturellement, mais le public est incapable de comprendre comment cette perfection est atteinte, comment cela est fait. Et cela m'a attiré beaucoup, j'ai appris beaucoup en vivant avec ces gens-là. Et ils m'ont donné un modèle que j'aurais été heureux de savoir imiter, d'être capable d'imiter dans mon métier. Et puis il n'y a pas seulement dans le cirque la réalisation matérielle du tour de force, de la réalisation exceptionnelle. Il y a aussi toutes les possibilités que nous imaginons autour de ce qui est fait. Le cirque est un lieu magique. C'est le cercle magique. Vous avez l'impression que n'importe quoi peut arriver. Vous avez l'impression qu'un ange va apparaître. Vous avez l'impression qu'un prestigitateur fera aussi bien sortir des diables ou des chimères ou des licornes de son chapeau qu'il en fait sortir des colombes ou des lapins. Et c'est pour cela que, continuant à fréquenter beaucoup le cirque, j'attends perpétuellement quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu beaucoup de choses extraordinaires, beaucoup de ces choses que des hommes étaient capables de réussir avec beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, beaucoup d'intelligence et de ténacité. Mais je me dis toujours qu'il arrivera une fois où je verrai au cirque quelque chose de surnaturel. Et j'ai l'impression que si le surnaturel peut se produire, c'est au cirque qu'il se produira.
Tintagel va d'une chose à l'autre, prend les gobelets, les remet à leur place, déplie un foulard, le replie, examine la baguette d'ébène comme si c'était un serpent changé en branche d'arbre. L'orchestre indécis répète l'ouverture, une fois encore, une autre fois. Puis, comme si le souvenir lui revenait de l'endroit où il se trouve, du rôle qu'il doit jouer, il cueille dans l'espace une cigarette invisible. Il l'allume à une apparence de briquet. Il souffle la fumée, et la fumée monte, bleue, légère, formant des signes singuliers qui se dénouent, qui se défont. Lentement, il fume avec des gestes exquis et concertés, dont on se sent bercé. Et la fumée s'élève, écrivant des arcades sous la fresque du plafond, doucement soufflée par sa bouche. Ce n'est rien. Et c'est merveilleux. L'orchestre accompagne en sourdine d'une vieille valse de Lanner qui vient d'au-delà des temps. Tintagel a jeté la cigarette inexistante, mais la fumée continue à couler de ses lèvres à demi fermées. Un jet de fumée tantôt étroit et droit comme un fil, tantôt moelleux, ample, lourd, pareil aux vapeurs de nombreux encensoirs. La fumée remplit le cirque maintenant. On ne voit plus le carrousel des Hetmans ni le galop des Orlov peints. Rien que cette fumée, uniforme, qui prend toutes les formes et peuple le vide d'une profusion d'êtres furtifs. Un petit prodige de rien du tout, dirait Miguelito s'il voulait parler. L'enfance de l'art. Tintagel sculpte cette fumée. Il la pétrit entre ses mains. Il l'arrache à la masse amorphe. Du poing, il y creuse un visage. Il y approfondit une âme. Et quand une figure humaine est achevée, il la jette loin de lui. Il lui permet de se mouvoir entre ciel et terre, indécise, gauche, hésitante comme un brouillard. Les spectateurs inquiets s'agitent. Une femme qui n'a pas compris prétend qu'il y a le feu. Malgré ce début de panique qui le saisit en présence des surnaturels, aucun d'entre eux ne quitte sa place. On dirait que ces figures de fumée qui passent entre eux et les frôlent au passage leur défendent de bouger. Un visage gris s'est approché si près de mon visage que je recule brusquement. Je serre la main de Miguelito comme si j'avais peur que ces présences impalpables ne veuillent me l'enlever et l'éloigner de moi. La direction du cirque avait raison d'annoncer une attraction sensationnelle pour la représentation d'Adieu de Tintagel. Les écuyers, les clowns, les équilibristes qui se sont groupés près de l'entrée de la piste pour regarder ont des visages stupéfaits. Et l'orchestre envoûté joue inlassablement, inconsciemment, le même air vieillot. Les autres spectateurs reconnaissent-ils eux aussi dans ces fumées les êtres qu'ils ont aimés? Ont-ils aussi sur leurs lèvres le goût des lèvres disparues? Tendent-ils eux aussi les mains vers des ombres qui tournent, s'approchent, s'éloignent, se renversent? Je ne sais pas. Il y a devant moi un mur de fumée qui oscille, des figures qui se font et se détruisent avant d'avoir pleinement été, des fuites de brume qui glissent hors de l'espace et du temps. Ou bien ai-je rêvé tout cela pendant que Tintagel exécutait son numéro habituel? Et puis, comme s'il renonçait à suivre ses fumées, l'orchestre s'est arrêté. Et dans le silence, il y a eu quelque chose de comparable à des froissements de soie très fins, des tintements de cloches presque imperceptibles qui étaient le bruit de la fumée. Les lampes se sont éteintes aussi. Des éclairs d'une lumière amortie, d'un gris très délicat, vibraient doucement dans cette atmosphère de plumes et de nuées. Tout le cirque paraissait plongé dans un grand sommeil, dont cette fumée vivante était le rêve prodigieux.
Marcel Brion, voulez-vous, s'il vous plaît, évoquer certaines images de pays que vous avez visités, que vous avez particulièrement aimés?
Les pays que j'ai le plus aimés et que je continue à aimer et dans lesquels je vais le plus volontiers, je dois dire d'abord que c'est l'Allemagne. Parce que l'Allemagne répond à une part de moi-même très importante, qui est, je crois, la plus importante, qui est le côté romantique de moi. J'ai toujours voyagé en Allemagne très jeune déjà, j'y ai fait des études aussi à Munich, et j'ai aimé l'Allemagne pour tout ce qu'elle m'offrait de fantastique. En somme, les vieilles petites villes, les forêts, les grands fleuves, les vieilles ruines de châteaux, tout cela stimulait, si vous voulez, cette imagination qui jouait quand j'étais tout enfant et qui se déployait quand je lisais des contes romantiques, par exemple les contes de Tieck, ou les contes de Hoffmann, ou les contes de Brentano, ou quand je lisais les poèmes de Novalis, ou encore quand je feuilletais de vieux livres d'images représentant des gravures romantiques, dont l'Allemagne est très importante pour moi, parce qu'elle satisfait, elle nourrit cette part romantique de moi-même. Mais comme nous sommes tous plusieurs personnages, et au moins deux, il y a un autre aspect de ma personnalité qui est satisfaite très largement par l'Italie. J'aime beaucoup l'Italie, j'y suis allé tout enfant. C'est là que j'ai été amené d'abord par mes parents, parce que mes parents avaient une véritable passion pour l'Italie. Ils m'y ont emmené tout petit, je crois. J'avais 7 ans ou 8 ans à l'époque où j'y suis allé pour la première fois. Et en Italie, alors j'ai aimé la ligne très nette des collines de Florence. J'ai aimé évidemment la lagune de Venise. J'ai aimé les monuments de Rome. Et tout cela fait un contrepoids à ce risque de se perdre que l'on a quelquefois dans la forêt allemande et dans le romantisme allemand. Et puis il y a encore d'autres pays, il y a évidemment l'Irlande, l'Irlande que j'aime particulièrement parce que c'est le pays de mes ancêtres. Mes ancêtres sont venus d'Irlande au début du XVIIIe siècle. Je suis allé souvent dans leur pays d'origine, dans mon pays d'origine. J'y suis très attaché. C'est un pays merveilleux. C'est un pays où l'on vit en plein fantastique, en plein surnaturel. Puis alors le peuple est splendide. Ces gens vous parlent des fantômes qu'il y a dans leur maison comme ils vous parleraient de leurs enfants ou de leurs parents. Pas pour eux, tout cela est parfaitement réel. Parmi les pays que j'ai le plus aimé, j'ai beaucoup aimé la Norvège, évidemment, parce que ce sont des paysages démesurés, des paysages extraordinaires, pleins d'une force panique. C'est là qu'on sent les éléments portés à leur plus grande violence. J'ai aimé l'Égypte, pour une autre raison, parce que le désert a aussi sa fascination, et puis parce que les monuments, les antiquités égyptiennes me tentaient beaucoup. J'aime la Hollande, où je vais très souvent, parce que je trouve en Hollande une qualité de finesse d'air, de silence, de discrétion, de secret que l'on trouve dans les tableaux de Vermeer, dans les tableaux de Pieter de Hort, et des villes comme Amsterdam avec leurs canaux et ses arbres, ses feuilles vertes tombant dans le vert jade de l'eau des canaux. Tout cela a une immense poésie. J'ai beaucoup aimé l'Angleterre aussi, où la vie était agréable et où j'ai travaillé aussi énormément. Vous voyez que je ne suis pas l'homme limité à un seul pays. Je suis l'homme, je peux dire, de tous les pays, parce que j'ai cette faculté singulière d'être chez moi partout et d'être non seulement chez moi, mais de devenir l'homme du pays lui-même, de mêler à la vie du pays. C'est pour cela que j'ai voulu apprendre des langues étrangères, de façon à ne pas sentir cette barrière de l'ignorance de la langue qui vous coupe irrémédiablement des gens que vous rencontrez dans un pays où vous êtes incapable de vous faire comprendre et de comprendre les autres. Et cette faculté de devenir l'homme du pays est tellement grande que je crois qu'il ne m'a jamais fallu plus de 24 heures, peut-être, pour réaliser cette assimilation parfaite de moi à un pays nouveau. Ce qui fait que je ne suis pas un étranger. En somme, je ne suis pas un voyageur. Je suis un homme qui change de pays. D'ailleurs, j'ai beaucoup vécu à l'étranger pendant toute la période qui s'étend entre la fin de la Première Guerre et le commencement de la Deuxième. J'étais célibataire à ce moment-là, je n'avais pas d'appartement. Et alors, j'ai vécu à l'hôtel, je peux dire, pendant près de 15 ans ou 20 ans, allant d'une ville à l'autre, selon que ma fantaisie m'y portait. Et cela, évidemment, m'a donné de grandes joies et m'a appris tout de même pas mal de choses.
C'est curieux que vous ne vous sentiez pas étranger dans un pays nouveau.
Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, je crois que je n'ai pas de contour. Cela vient peut-être d'une absence de personnalité très accusée. Je suis capable de devenir très facilement un autre être. Quand j'ai quelqu'un en face de moi, par exemple, je me sens capable de devenir cet autre, de comprendre cet autre. Je ne me sens jamais isolé. Et je crois que le fait de ne pas se sentir isolé et de ne pas se sentir enfermé est une des plus grandes joies que j'ai pu éprouver. Et cela a été un des plus grands enrichissements aussi pour ma personnalité qui tout de même s'est enrichie et est devenue multiple, et pour ma culture où j'ai appris tout de même pas mal de petites choses de cette façon-là.
Vous n'avez pas parlé de l'Espagne.
Ah, j'aime bien l'Espagne, mais pour moi, l'Espagne est un pays dans lequel j'ai voyagé seulement. Je peux dire que je n'ai pas vécu en Espagne, alors qu'il m'arrivait de passer un an en Allemagne consécutivement, ou un an en Angleterre, ou un an en Italie, ou 6 mois en Hollande. Ça ne m'est jamais arrivé pour l'Espagne, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est un pays trop pittoresque pour moi. Et j'ai tout de même écrit un roman qui se passe en Espagne. C'est l'histoire d'un homme qui voyage avec une femme qui ne s'harmonise pas très bien avec l'Espagne. Parce qu'il faut faire attention quand on voyage d'avoir toujours avec soi une femme qui corresponde parfaitement au pays dans lequel on se trouve. De façon à ce que la femme avec laquelle on est à ce moment-là vous facilite ce contact avec le pays, que vous compreniez le pays, non pas seulement par ce que vous en voyez extérieurement, mais même par l'accord de sensibilité que vous pouvez avoir avec l'être qui est avec vous. Et je ne sais pas, en Espagne, cette femme qui était avec moi, ne s'accordait pas. Alors j'ai inventé un roman qui s'appelait Le Caprice espagnol, et dans ce roman, je quitte cette femme, je la laisse dans le train, et moi je m'installe à Cordoue et j'y vis la vie d'un Espagnol. Mais je ne l'ai jamais fait.
Thank you.
Marcel Brion, dans quelle mesure cette vie de vacances laborieuses que vous venez d'évoquer se reflète-t-elle dans votre œuvre ?
Elle a eu une grande influence sur mon œuvre, en ce sens que dans chaque pays où je me suis trouvé, j'ai travaillé sur le sujet que me proposait particulièrement ce pays. Ainsi, quand j'étais en Norvège et quand j'étais au Danemark, je travaillais sur les antiquités scandinaves que l'on ne voit que là. Quand j'étais en Égypte, j'ai fait de l'égyptologie. En Italie, j'ai écrit plusieurs de mes livres, un livre sur Léonard de Vinci, un sur Michel-Ange, un sur Machiavel, un sur Laurent le Magnifique. En Allemagne, évidemment, je peux dire que c'est l'Allemagne qui a nourri la plus grande partie de mes livres. C'est de ma vie en Allemagne que sont sortis mon livre sur Schumann, le musicien, Schumann et l'âme romantique, que sont sortis mes travaux sur l'Allemagne romantique, les deux volumes de l'Allemagne romantique, où je passe en revue les plus grands poètes et les plus grands prosateurs de cette époque, et le livre sur la peinture romantique qui va sortir prochainement. Par exemple, quand j'étais en Irlande, j'ai travaillé sur les miniatures irlandaises du 7e au 9e siècle qu'il y a à la bibliothèque de Trinity College, qui vous montre que si j'étais un vagabond qui profitait largement de tout ce qu'un pays pouvait lui donner de beau et d'étonnant, comme paysage, comme monument, comme rencontre avec les êtres, j'ai été tout de même un travailleur et je n'ai pas passé mon temps à flâner, j'ai passé mon temps dans les bibliothèques et surtout, je dois dire, aussi dans les musées.
Je m'adresse maintenant au créateur. Vous avez écrit de nombreux romans, de nombreux contes, et j'aimerais savoir quels sont vos rapports avec les personnages que vous créez.
Eh bien, à ce moment, je crois que nous pouvons reprendre le mot de vacances. Parce que quand j'écris un conte, et ça dépend, disons tout de suite, que dans mes romans, il y a des romans qui sont des romans autobiographiques. Alors là, il n'y a pas beaucoup d'éléments inventés. Il y a des expériences personnelles, des êtres que j'ai connus et qui sont passés dans mes livres, de même que j'y suis passé moi-même. Vous savez, quand je dis roman autobiographique, un roman n'est jamais complètement une confession. On y met beaucoup de soi-même, mais il y a toujours cette transformation qui se produit quand on passe de l'événement vécu à l'événement raconté. Il y a cette espèce de transposition qui est le fait même du livre. Dans ces romans plutôt, dirons-nous, autobiographiques, pas totalement, mais plutôt autobiographiques, il est peu question de fantastique. Les romans fantastiques et les contes fantastiques que j'ai écrits, au contraire, m'ont donné l'impression de cette parfaite vacance dont nous parlions. Parce que, quand je commence à les écrire, j'ai l'impression de faire totalement abstraction de moi-même. Je n'invente pas. Je ne suis probablement pas un vrai romancier, parce qu'un vrai romancier invente des personnages, les fabrique de toutes pièces, les habille, les fait manœuvrer devant lui, invente des événements, les fait se rencontrer, s'entrecroiser dans des événements qu'il a voulu. Pour moi, ce n'est pas ça du tout. Pour moi, quand une histoire m'arrive, tombe sur moi, je peux dire, je ne l'ai pas sollicité, je ne l'ai pas cherché, elle vient à moi. Alors à ce moment-là, je commence à écrire ce que je vois, parce que ce qui se passe et ce que je raconte n'est pas quelque chose qui sort de mon imagination. Je ne sais pas la part exacte que peut y avoir mon imagination, mais je crois que c'est surtout quelque chose qui m'est raconté par quelqu'un d'autre, qui me vient du dehors, dans un état qui serait presque un état visionnaire. Et c'est un état visionnaire en ce sens que je vois les choses d'une façon très concrète. Ces romans fantastiques ne se présentent pas à moi dans du brouillard ou dans des ténèbres. Au contraire, les personnages sont très visuels, sont très visualisés. Ils sont là avec leurs trois dimensions telles qu'ils sont, mais je ne les ai pas inventés, je ne les ai pas créés, ils sont venus à moi, ils se sont imposés à moi. Et alors à ce moment-là, je peux dire que je suis en vacances parce que je n'ai plus le souci d'inventer, je n'ai plus qu'à noter ce qui se passe devant moi. Et alors j'écris très rapidement le synopsis de ce que je vois, se dérouler, comme se déroulerait un film devant moi. J'écris rapidement le synopsis parce que dès que la vision est terminée, le rideau tombe et j'oublie complètement tout ce que j'ai vu. Et alors, je me dépêche de le noter à mesure que je le vois, parce que ça disparaît. Et ensuite, alors, quand je l'écris à loisir, naturellement, mais toujours en respectant rigoureusement ce que le synopsis a noté. Je ne peux rien ajouter, je ne peux rien enlever. Le personnage tel qu'il a été donné à moi, je suis obligé de le restituer tel qu'il était. L'événement auquel j'ai assisté dans cette espèce d'état visionnaire ou d'état second, je suis obligé de le rendre exactement tel que je l'ai vu, avec une loyauté absolue. Et je vous dis, en faisant abstraction de moi-même, j'ai conscience de n'être, quand j'écris des contes ou des romans fantastiques, qu'un appareil d'enregistrement, si vous voulez, une sorte de magnéto auquel on montrerait des images au lieu de lui confier des paroles. Alors vous comprenez, c'est passionnant. C'est passionnant parce que je vais de surprise en surprise. J'attends perpétuellement ce qui va arriver. Et ce qui va arriver, je le note à mesure. Et quand je l'ai écrit, après ça, je me demande ce que ça veut dire. Parce que je n'en sais rien.
Voulez-vous nous décrire un personnage qui s'est imposé à vous ?
Bien, il y a un personnage comme ça qui a tourné autour de moi pendant assez longtemps. Un soir, je pensais à autre chose, je pensais à n'importe quoi, je fumais ma pipe. Et j'ai vu ces mots qui se sont comme inscrits devant moi, le maréchal de la peur. Ce rapprochement de mots d'abord m'a surpris et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a là derrière ? Alors j'ai essayé de tâtonner pour voir s'il n'y a pas autre chose qui viendrait. Il n'y avait rien, c'était comme une inscription dans l'espace, même pas sur le mur, en l'air, rien d'autre. Pendant plusieurs jours, ce nom du maréchal de la peur a continué à tourner autour de moi et je ne le voyais toujours pas. Et puis alors, un beau jour, je commence à écrire, presque d'une écriture automatique, comme je le fais toujours dans ces moments, je ne dirais pas de transe qui serait excessif et prétentieux, mais d'inconscience absolue et presque automatiquement ce que je vois. Et ce que je vois, c'est ceci, je suis dans une forêt qui domine une vallée, et dans cette vallée, je vois une armée en déroute, des canons emportés par des chevaux, des soldats qui se dispersent dans toutes les directions. Certains viennent aussi dans la forêt où je me trouve, et un vieux soldat vient s'asseoir à côté de moi. Je le vois très bien, parce que quand je vois ces choses-là, je les vois avec une netteté, et c'est une histoire que j'ai écrite il y a près de 30 ans, et je vois ce personnage aujourd'hui avec exactement la même netteté que je l'ai vu ce jour-là. C'était un vieux bonhomme, un vieux soldat qui portait de longues moustaches blanches, qui avait des culottes et des guêtres blanches, un habit bleu avec des parements d'amarante et un bonnet, une espèce de grand bonnet en feutre avec une plaque en argent comme en portaient par exemple les soldats à l'époque de Frédéric II, le roi de Prusse, a une plaque en argent avec un L et un W entrelacés. Alors ce soldat vient s'asseoir à côté de moi sur un tronc d'arbre où je me suis assis et je lui demande « Est-ce que vous êtes mort dans la bataille qui vient d'avoir lieu ?» Question étrange et il me répond « Non, je ne suis pas mort dans cette bataille. » Je lui dis « Ah ben c'est bien heureux. » Il me dit « Non, ça n'a pas d'importance. Vous savez, moi je nais et je meurs perpétuellement. » Et alors il me raconte différentes batailles auxquelles il a assisté. Il a assisté à la bataille de Bouvines. Par exemple, il ne sait pas que c'est la bataille de Bouvines naturellement, mais la façon dont il la décrit, le char impérial avec l'aigle d'or portant le globe, les bannières tout autour, je sais que c'est le char impérial à Bouvines, moi. Et alors c'est un homme qui était fait pour être le soldat éternel qui renaissait et qui mourait perpétuellement. Et je lui dis, ah ben c'est bien heureux que vous ne soyez pas mort dans cette bataille. Il me dit, oh bon, ça n'a pas d'importance, moi, vous savez, si ce n'est pas celle-là, ça sera une autre. Je lui demande, dans quelle armée servez-vous? Il me dit, moi, ça m'est absolument égal. Le pays que je sers, ça m'est égal. L'essentiel, c'est que je me batte. La seule chose qui compte, c'est le chef. Le chef, ça, ça a de l'importance, je veux dire. Et votre chef, aujourd'hui, vous avez quelqu'un de bien. Oh, il me dit, alors là, oui, quelqu'un de très bien. Comment s'appelle-t-il? Il me dit, oh, je ne vous dirai pas son nom, parce que son nom ne vous dirait rien, vous ne le connaissez pas, vous n'en avez jamais entendu parler. D'ailleurs, nous-mêmes, quand nous parlons de lui, nous ne l'appelons jamais par son nom, nous l'appelons le maréchal de la peur. Et voilà comment, dans cette histoire, qui était venue à moi d'une façon tout à fait inattendu, et rentrait ce personnage du maréchal de la peur qui arrive d'ailleurs dans l'histoire plus tard, mais je ne veux pas vous ennuyer en vous racontant tout ça. Ce maréchal de la peur a tourné autour de moi pendant plusieurs jours et peut-être pendant des semaines, jusqu'au moment où il a trouvé la fissure par laquelle il pouvait communiquer avec moi.
Je devinais que la porte s'était ouverte quand je vis mon compagnon se lever d'un bond, se mettre au garde à vous, jambes écartées, le fusil tenu à bout de bras, faisant un angle très large avec son corps. Les paysans n'avaient rien entendu et dormaient encore. Un soldat entra, portant une lanterne qu'il posa sur la table. Derrière lui, un homme s'avançait lourdement. Il était très grand, très gros et très vieux. Il paraissait accablé par un immense chagrin, par un de ces désespoirs auxquels il n'y a pas de remède, pas de consolation. Un jabot en désordre lui entourait le cou. Ses manchettes étaient déchirées. De grandes bottes montaient jusqu'au haut de ses cuisses. Il était coiffé d'un tricorne, dont le ruban était déteint, la cocarde à demi arrachée. Il me parut couvert d'eau comme un cavalier qui aurait longtemps marché sous la pluie. L'eau coulait de son tricorne, inondant ses épaules, ruisselait jusqu'à ses bottes. Une odeur de terre humide l'accompagnait. Le dragon qu'il avait escorté sortit en portant la lanterne. Dehors, les chevaux hennirent, s'ébrouèrent et partirent au galop. Le vieux soldat au fusil s'était assis sur le banc à côté de moi. De l'autre côté de la table, en face de nous, avait pris place le maréchal de la peur. Je considérais avec une curiosité mêlée de répulsion cet énorme corps serré dans un habit usé, râpé et sali d'argile, ce visage d'une pâleur de terre glaise où les yeux sans éclat avaient un regard fixe et morne. Il baissa les paupières, comme s'il voulait dormir, puis il les releva soudain, et je vis une expression de détresse animer pendant quelques secondes ses traits profondément modelés. Le maréchal de la peur appuya ses coudes sur la table et laissa tomber sa tête dans ses mains. Il semblait chercher en lui-même la solution de quelque événement inexplicable. Supposant qu'il avait faim, nous poussâmes vers lui ce qui restait de pain, de lait et de bière, en le priant de manger. Mais d'un geste, sans dire un mot, il repoussa vers nous les aliments que nous lui offrions. Le vieux soldat s'immobilisa dans une attitude qui trahissait la surprise, le désespoir et peut-être aussi l'horreur. On eût dit que quelque chose d'incompréhensible jusqu'alors commençait à s'éclairer lentement dans son cerveau. Nous observions cet accablement découragé dans lequel tout le corps du maréchal de la peur semblait se décomposer. Lorsqu'un des fils du fermier grogna et remua dans son sommeil, ni le maréchal de la peur, ni le soldat ne parurent l'avoir entendu. Aucun des deux ne tourna la tête de ce côté. Quand le maréchal de la peur était entré, je le remarquai, il regarda comme s'il ne la voyait pas, la fille nue, ouverte sur sa botte de paille. Déjà, les spectacles du monde extérieur, sans doute, ne l'intéressaient plus.
Dans ces contes, j'ai l'impression qu'il y a pour moi un déplacement total de temps et d'espace. Le temps et l'espace n'existent plus et je suis transporté dans n'importe quel espace et dans n'importe quel temps. C'est pour cela d'ailleurs que j'écris toujours ces histoires à la première personne. Parce qu'en somme, quand ça vient à moi, j'écris « je ». Je suis là, je vois ça, je fais ça. C'est pour ça que toutes ces histoires, j'y suis dedans. J'y suis dedans, ce qui prouve que ce n'est pas quelque chose d'inventé, de voulu, de factice, de fictif, mais au contraire, quelque chose à quoi, dans un certain carrefour du temps et de l'espace, j'ai authentiquement participé et j'ai ce sentiment de participation vraiment extraordinaire dans ces histoires.
Mais ne pensez-vous pas, sur le plan de la création, que nous nous trouvons là devant un phénomène de dédoublement ?
De démultiplication extraordinaire, parce que j'ai l'impression d'être un appareil capable de capter certaines ondes. Disons, si vous voulez, on pourrait l'expliquer comme ça. C'est peut-être parce que je suis un Irlandais d'origine, que peut-être les fantômes viennent à moi et me racontent leur histoire. Au fond, ils ne trouvent pas de barrière, c'est peut-être toujours parce que je n'ai pas de contour et que je ne suis pas fermé. Au fond, je suis ouvert aux fantômes, si vous voulez, ou au surnaturel, quel qu'il soit, comme je suis ouvert aux arbres. Et alors peut-être ces personnages qui vivent sur un autre plan, dans une autre durée, dans un autre lieu, sentant qu'ils auront en moi un auditeur non seulement complaisant, mais très sympathique et très intéressé et très amical, viennent me raconter leur histoire et m'intègrent dans leur histoire, parce que c'est ça qui est très important. À partir du moment où l'histoire commence, je ne suis plus un spectateur, je suis dans l'histoire.
Mais ne vous arrive-t-il pas de vous opposer, de lutter contre certains de ces personnages ?
Ah, c'est-à-dire que ça m'est arrivé une fois, dans des circonstances assez désagréables. Je commence à écrire une histoire comme ça, toujours comme si mon stylo marchait tout seul. Et je l'écris, comme d'habitude, j'étais un voyageur, je me trouvais dans une sorte de désert qui devait ressembler au désert mexicain, avec des volcans sur l'horizon et des cactus autour de moi, et la nuit venait, et j'avais très peur. J'avais très peur parce que je sentais que le pays était dangereux, non pas tant pour les brigands que j'aurais pu y rencontrer, mais pour d'autres présences plus dangereuses, et j'avais très peur de passer la nuit là. Et à ce moment-là, je vois un cavalier qui arrive et qui s'arrête devant moi. C'était un homme sombre, avec des cheveux très noirs, très plaqués, un visage très brun, qui portait un poncho rayé de brun et de noir. Il s'arrête devant moi et il me dit, vous savez, il ne faut pas rester à cet endroit parce que c'est mauvais la nuit. Il comprenait, il savait ce qui se passait ici. Il dit, il ne faut pas rester là, il faut aller au village voisin, vous ne devriez pas rester là. Il dit, mais je ne peux pas, je suis fatigué, il faut tout de même que je me repose, j'ai marché tellement. Il me dit, mais c'est très simple, montez à cheval derrière moi. Et j'ai été très tenté d'accepter, parce qu'évidemment j'étais fatigué et que je voulais aller au village me reposer. Mais au moment où il m'a proposé ça, je me suis aperçu que ses pieds qui posaient sur les étriers, au lieu de poser tout droit sur les étriers comme un pied humain, se recourbaient sur les étriers comme une serre d'oiseau de proie, comme des griffes d'oiseau de proie. Alors à ce moment-là, j'ai compris que c'était le diable et j'ai eu une peur terrible. J'ai arrêté l'histoire. Mais je ne savais pas ce qui allait arriver, j'étais très intéressé et très curieux de savoir ce qui était arrivé. Alors j'ai recommencé à écrire l'histoire. Mais je n'ai pas écrit « je », j'ai écrit « le voyageur » parce que je ne voulais rien avoir à faire avec ce diable. Et alors j'ai délégué un personnage à la troisième personne, le voyageur. Mais moi-même, je me suis tenu hors de cause. Et dans cette histoire-là, je suis resté le spectateur.
Lorsque le voyageur, ayant consenti enfin à l'agonie de ses semelles, leva la tête, il vit qu'un cavalier se dressait maintenant entre lui et les volcans. Le nouveau venu, vêtu d'un costume brun très ajusté, qui se confondait presque avec la robe de sa monture, feignait de regarder les volcans, mais son œil glissait imperceptiblement vers le voyageur, qui balançait entre ses mains un pied douloureux. Il était assis très droit sur sa selle, dont le trousquin portait un manteau roulé d'une étoffe rayée de rouge et de brun. Ses mains d'une netteté métallique raccourcissaient les rênes, obligeant le cheval à regarder plus haut que l'horizon, ce qu'il faisait en battant des narines et en roulant des yeux affolés, tandis que ses lèvres se retroussaient sur de larges dents mâchonnant un reste d'écume jaunâtre. Quand le cavalier tourna enfin la tête vers le voyageur, le regardant bien en face cette fois. Celui-ci vit un visage solennel et sévère, coiffé d'un large chapeau brun qui collait au front comme une couronne d'épines. Ils s'observèrent ainsi un long moment sans parler. Le cheval dansait d'un pied sur l'autre, impatiemment, irrité par la cendre ardente qui lui brûlait les sabots, secouant sa crinière divisée en tresses courtes par des rubans noirs. « Voulez-vous manger ou boire ?» dit enfin le cavalier. Il avait tiré de ses fentes une bouteille d'étain et un pain qu'il tendit au voyageur. Celui-ci regarda autour de lui les crêtes déchiquetées, les calumets des volcans, le ciel rare. Puis il refusa d'un geste. Il était épuisé de faim et de soif, mais la nourriture offerte entre les mains de l'étranger l'effrayait. Il n'osait même pas parler, de peur que le cavalier ne s'emparât de sa voix et n'enroulât ses mots irrésistiblement comme une corde pour le tirer jusqu'à lui. « Prenez et mangez !» répéta l'inconnu. Le pain avait belle mine et bonne odeur. Il sentait encore le four, la mie souple. Et le cavalier fixait du regard les mains du voyageur, comme s'il avait pu les détacher ainsi du pied qu'elle balançait, et malgré elle, les conduire vers le pain. Puis il secoua la bouteille d'étain, où le vin chanta joyeusement, tira le bouchon, délivrant un arôme de coteaux et de verger, allongea ce goulot odorant vers l'homme qui refusait toujours. « Buvez ! Ceci est le sang heureux de la terre !» La voix du cavalier avait un accent dur et triste. Ses mains avaient lâché les rênes pour offrir le pain et le vin, mais ses genoux collaient au flanc du cheval des agrafes de métal. Ses yeux voulaient exprimer la bonté, tandis que sa bouche remuait avec une méchanceté autoritaire. Dans ses mains, l'honnête pain, le vin paysan paraissait peu familier. Peut-être les proposait-il aux passants parce qu'il lui était impossible ou défendu d'y goûter lui-même. Le voyageur, attiré par cette simplicité de céréales et de vignes, faillit saisir les mets qui s'approchaient à portée de ses doigts, mais il se rappelait ce qu'on lui avait dit de la nourriture des ombres et de leur sinistre saveur, et il retint à temps ses mains prêtes à faiblir. Le cavalier ne parut pas se fâcher de ce refus discourtois. Il replaça le pain et la bouteille dans ses fontes, qu'il boucla soigneusement. « Si vous avez faim, vous trouverez de quoi manger au prochain village. Il y a une auberge confortable. Voulez-vous que je vous y conduise ?» Ses yeux de fer noir semblaient avoir la vertu de saisir l'homme aux épaules, de le faire se lever et marcher. Mais le voyageur ne céda rien de son silence, de son immobilité. Un mot pouvait être aussi mortel qu'une bouchée de pain ou une gorgée de vin. « Vous semblez fatigué. Vos souliers sont brûlés. Montez derrière moi sur la selle, accrochez-vous à ma ceinture. Vous abrégerez ainsi votre route. » Il lui tendait maintenant l'étrier, où sa botte se recourbait comme une griffe, pour que le voyageur la saisît et sauta sur le cheval. Mais l'homme frissonna et baissa les yeux vers le sol pour ne pas voir cette botte brillante. La lave donnait de grands coups sous le rocher qui lui servait de siège. Un des insectes aux écailles de lac se dressa à moitié, agitant ses mandibules avec l'impuissance des aphasiques. Pendant ce temps, le cavalier attendait patiemment, contraignant son cheval d'une étreinte de métal chaud. « Il ne faut pas vous laisser surprendre ici par l'obscurité, » dit-il, en regardant distraitement le paysage. « La nuit tombera d'un seul coup. Vous rencontrerez des êtres qui vous feront peur. » Thank you.
Est-ce que vous n'avez pas peur de certains de ces personnages, de ce monde qui est situé dans une autre dimension?
Oui, j'en ai peur. J'en ai peur en même temps que je l'aime et qu'il me fascine. Si vous voulez, je me trouve dans l'état d'esprit de l'enfant auquel on raconte une histoire terrifiante, une histoire de revenant ou une histoire horrible, et qui est passionné par cette histoire et qui serait désolé que l'histoire s'interrompe. Je ne crois pas en général que les personnages que je rencontre soient des personnages malfaisants. En tout cas, je ne crois pas qu'ils puissent me faire du mal. Ce qui m'inquiète, c'est la pensée que ces personnages, tout de même, m'attire hors de moi-même. Jusqu'où pourrait-il m'attirer? Serais-je capable, s'il m'ont attiré trop loin, de revenir dans le corps que j'ai abandonné? C'est une chose à laquelle je pense quelquefois. C'est pour cela que ces histoires, je ne les redoute pas quand elles viennent, mais je ne les sollicite pas non plus. Je les laisse venir, quel que soit le danger qu'elles peuvent présenter, qui n'est peut-être pas très grand, mais surtout en raison de la séduction et de l'intérêt qu'elles présentent pour moi et qui, eux, sont très grands.
C'était Impromptu de vacances, une émission de Harold Portnoy. Ce soir, entretien avec Marcel Brion de l'Académie française. Texte lu par Bernard Jousset, assistante Yvette Tuchban, collaboration technique Yann Parentoen.
Cette émission a été diffusée la première fois le 16 août 1965 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.